grand dialogue.
Sigikafoba.
Edowani wa makaran.
Le grand dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID.
Chenibero.
Halud Mauni.
Chenibiri. Sigikafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 17 octobre 2014. Nous sommes au 8e numéro du débat du Parlement qui invite les députés pour venir débattre des questions d'actualité. Aujourd'hui, nous recevons Mohamed Ould Sidi Mohamed du RPM, élu à Gundam, et Adama Paul Damango de l'URD, élu à Bankas. Nous allons débattre donc de trois thèmes. Le troisième round des pourparlers intermaliens à Alger, le rapport d'audit de la Cour suprême sur les opérations d'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. La troisième partie sera consacrée à l'appel du Mali au Conseil de sécurité pour l'aider à faire face au djihadisme. Je suis Famoussa Sidibé et Petit Ndiara est à la mise en onde. La troisième partie, donc le troisième round donc des pourparlers intermaliens s'ouvre normalement lundi. Et d'ici là, nous allons tenter de comprendre ce qui doit normalement se passer sur place avec les députés, le député de la majorité et le représentant de l'opposition. Nous avons vu que les points de vue des groupes armés ont fait beaucoup débat, notamment dans les 8 régions avec beaucoup de manifestations. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ces voix de la société civile sont entendus, Mohamed Ould Sidi et Mohamed du RPM?
Bien, d'abord, je remercie le studio Tamani qui, à mon avis, est en train de faire de bonnes choses pour vraiment le développement de la démocratie au Mali et surtout l'information du citoyen. Et s'agissant de pourparlers d'Alger, j'estime que normalement les délégations vont partir samedi ou dimanche et ces pourparlers vont débuter le lundi 20 octobre. Et à mon avis, cette fois-ci, des sources sûres, c'est uniquement vraiment les autorités qui vont partir parce que dans le deuxième round, la société civile a été suffisamment écoutée. Et cette fois-ci, à mon avis, beaucoup de gens ne partent pas. C'est vraiment la décision politique maintenant qui va être prise à Alger. Et c'est pour cela que c'est uniquement que quelques ministres du gouvernement et quelques experts vont se rendre sur les lieux pour finaliser le projet d'accord. Parce qu'en réalité, l'accord proprement dit sera signé ici à Bamako. Devant tous les citoyens maliens. Une fois signé, normalement, il va être transmis à l'Assemblée nationale qui va délibérer et en faire une loi. Ça ne sera plus comme avant, c'est des accords tacites que les gouvernements passés ont pris et qui n'ont pas fait l'objet d'entérination au niveau de l'hémicycle.
D'accord. Alors, Adama Paul Damango, vous êtes de l'URD, de l'opposition. Donc, quel est votre avis sur les pourparlers qui doivent normalement commencer lundi à Alger?
Merci, monsieur Sidibé. Je suis effectivement Adama Paul Damango. Je suis élu à Bankas. Je suis pour la première fois au niveau de votre studio. Et je profite de ce micro pour vraiment remercier et féliciter le studio Tamani. Et aussi féliciter tous les auditeurs de cette chaîne.
Merci.
À travers les 24 radios, à travers le Mali, je crois bien.
Oui, exactement.
Vous faites vraiment œuvre utile pour cette nation. Parce que, comme on le dit, la presse, c'est le quatrième pouvoir. Et avec vos sensibilisations, avec vos informations que vous donnez, le peuple apprend. Le peuple est éduqué. Je vous encourage sur cette voie.
Merci.
Donc, pour revenir à votre question proprement dite, par rapport au troisième rang d'Alger, je ne peux que vraiment féliciter le gouvernement. Dans toute chose, il faut vraiment faire une décision politique.
C'est la voix de l'opposition, le signal.
Oui, ça, moi, je suis d'accord. Je suis d'opposition, c'est vrai, mais je suis l'opposition constructive. Donc, vraiment, il faut féliciter le gouvernement.
Pour avoir fait quoi?
Pour faire une décision politique qu'elle vient de prendre pour aller seule. Parce que les négociations, c'est fin, c'est vrai. Mais à un moment donné, il faut arrêter pour agir. Agir par qui? Par le décideur. Le décideur, c'est qui? C'est le gouvernement. Il faudrait qu'il prenne ses responsabilités et aille négocier avec les groupes armés pour venir faire un document commun consensuel qui sera accepté de tous.
Donc vous pensez que lors des dernières discussions à Alger, il y avait pléthore de délégations. Vous pensez que cette fois-ci, c'est plus restreint et salutaire?
Non, ce n'est pas question de pléthore, mais ça veut dire que la société civile a été largement écoutée. Chacun a émis son point de vue. Leurs points de vue ont été pris en compte par le gouvernement et les rebelles. Maintenant, on va pour une finalisation d'un document. Pour ce, rendre là, je crois que, comme a dit mon collègue honorable Mohamed Sidi, il faut que vraiment le gouvernement aille seul. Parce que la société civile a été vraiment représentée, a vraiment fait tout ce qu'il pouvait faire en son temps, au moment du deuxième round. Ce troisième round-là, il est bon que vraiment l'autorité prenne ses responsabilités pour qu'on puisse vraiment aller
de l'avant. Merci beaucoup, Adama Paul Damango. Vous êtes député élu à Bankas et député de l'URD. Je voudrais juste qu'on revienne sur l'actualité aujourd'hui avec ce qui se passe sur le terrain. Certains groupes armés sont en train de s'affronter. Il y avait des attaques terroristes qui continuent contre les contingents de la MINUSMA et quelques roquettes, notamment, qui tombent dans les grandes villes du Nord. Aujourd'hui, est-ce que ce qui se passe dans le Nord peut compromettre les pourparlers d'Alger? Mohamed Ourdou Sidi, Mohamed du RPM.
Moi, je pense que ce qui se passe au Nord, c'est vraiment une insécurité résiduelle qui, à mon avis, ne peut pas compromettre les accords ou les pourparlers d'Alger. Et s'agissant de l'événement récent qui a eu l'attaque d'hier au niveau de Intililt, et je pense que vraiment l'armée malienne n'est ni mêlée ni de près ni de loin. C'est vraiment un problème de leadership entre les mouvements eux-mêmes. C'est comme ça que nous avons appris la nouvelle. Sinon, comme le chef d'état-major adjoint l'a dit, vraiment l'armée n'est mêlée ni de loin. L'armée, depuis qu'on a dit qu'il y a laissé ses effets total, elle a respecté dans toute sa généralité le cessez-feu local. Maintenant, les groupes armés, dans le cadre des accords d'Alger, pour se positionner par-ci ou par-ça, bon, les gens bougent, mais ça n'implique pas du tout l'armée. Et ça ne doit pas, en principe, mettre fin aux négociations qui vont démarrer le lundi.
Alors, la voix de l'opposition, donc, sur ce sujet, pensez-vous que les remue-ménages qu'il y a aujourd'hui dans le Nord puissent compromettre les pourparlers d'Alger?
Bon, ça dépend de la manière d'agir et de comprendre tout un chacun. Parce que au moment où on négocie, si à ce même moment, s'il y a des attaques sporadiques, alors si c'est des soldats maliens qui se battent contre les groupes armés, ça peut compromettre. Mais si ce n'est pas le cas, ça ne peut pas compromettre. Parce que si c'est une question de leadership entre les groupes armés, ça c'est un règlement de compte, ça n'engage en rien l'armée malienne. Depuis qu'on a demandé à ce que le cessez-feu et le feu soient respectés, en tout cas l'armée malienne a accepté le cessez-feu. Et je vous assure que depuis ce temps-là, au-delà de Tombouctou, au-delà de Gao, l'armée malienne n'opère pas. Au-delà de 20 km de Gao et de Tombouctou, l'armée malienne n'opère pas. C'est les groupes armés qui opèrent. Donc c'est comme un No Man's Clan.
Chacun fait ce qu'il veut.
Ils font ce qu'ils veulent. Et quand ils attaquent contre eux, ils disent que c'est l'armée malienne. Alors que l'armée malienne, ce n'est pas vrai. Ils ont accusé le général Gamon. Le général Gamon est à Bamako. Il est à Bamako. Nous, mais tout près, on vient de l'écouter. Nous sommes ensemble. Je suis de la commission d'enquête du Nord.
Alors aujourd'hui, il y a une situation incontrôlable dans certaines villes, dans certaines grandes villes, notamment à Guéloc. Comment est-ce qu'on peut assurer la sécurité dans des zones comme à Guéloc aujourd'hui, avec les attaques auxquelles on a assisté ces derniers temps contre les contingents de la MINUSMA, Mohamed Ould Sidi,
du RPM? Moi, je pense que Les zones comme à Guéloc, la zone de Kidal, depuis les événements du 17 et 21 mai, l'armée malienne a replié au niveau de Gao et des autres compagnies. Maintenant, la sécurité ne pourra être assurée à ce niveau que tant qu'il n'y a pas d'accord Et dès qu'il y a les accords, l'armée va reprendre ses positions initiales. Sinon, actuellement, il n'est même pas recommandé. Parce que si l'armée va, ça va être un affront. Ils vont s'attaquer avec les rebelles et ils vont prendre ça comme prétexte pour dire, bon, voilà encore l'armée est venue nous attaquer. Donc moi, je pense que la sécurité ne pourra être restaurée là-bas qu'après les accords d'Alger.
Alors, la sécurité avant les... Donc, cela veut dire qu'on n'aura pas de sécurité avant les accords d'Alger. Est-ce que cela est souhaitable à l'opposition?
Bon, à la sécurité...
Attendre qu'il y ait un accord définitif pour qu'il y ait sécurité dans le nord, notamment à Kidal.
La sécurité,
est-ce que c'est la meilleure façon?
La sécurité, elle est relative. Même en zone rebelle, il y a la sécurité dans certaines localités. Parce que s'ils font des abus, ils vont répondre de leurs actes. Donc, fut-ils rebelles, ils font des choses qui sont contre les droits humains, les droits de l'homme, ils vont répondre contre un droit de leurs faits. Même que, comme le gouvernement est absent, ils opèrent en tant que gouvernement, ils vont répondre de leurs actes. Donc, on suppose que l'État, en attendant les négociations, leur donne le feu vert de travailler, mais dans la paix. Pour sécuriser les personnes et les biens de la zone.
Alors aujourd'hui, en voyant ce que les lignes rouges que Bamako s'est tracées et que les groupes armés se sont tracés également, avec en tête le MNLA, aujourd'hui, est-ce qu'il est possible d'arriver à un accord, d'abord avant de signer un accord définitif à Bamako, est-ce qu'il est possible pour les partis d'arriver à un accord à Alger,
Mohamed? Bon, je suppose que normalement, Alger... Les groupes armés et le gouvernement trouveront toujours, parce que dans tous les cas, les deux parties, il y a des médiateurs entre eux et des médiateurs qui comprennent
la situation.
Qui comprennent la situation et qui peuvent obliger les uns et les autres à rapprocher leur point de vue. Voilà.
C'est votre avis à l'opposition?
Oui, j'ajoute à ce que l'honorable a dit que nous sommes tous sur ce même pays, même si à un moment donné, on a eu le temps. Le courage de s'affronter avec des armes, il faudrait qu'un jour qu'on puisse reculer, regarder en arrière dans les rétroviseurs et qu'on puisse s'asseoir et se pardonner pour qu'on puisse alors construire ce Mali-là. C'est mon avis.
Alors l'opposition a longtemps reproché aux autorités de Bamako de ne pas avoir une feuille de route assez claire pour ces négociations. Est-ce que vous avez changé d'avis?
Bon, feuille de route pas claire, ça c'est tout gouvernement, parce que souvent dans certaines situations, On n'a pas le choix. Il faudrait patauger par-ci par-là pour voir les tours du tunnel, le bout du tunnel. C'est ce qui est arrivé. Maintenant, je pense que ce qu'ils ont eu à faire, en tout cas, ce qui est passé, est passé. Ils sont partis avec la société civile au deuxième round. Pour cette troisième partie, ils ont préféré aller seuls. Donc, ça veut dire qu'ils ont pu avoir une feuille de route.
Vous ne vous sentez pas exclu du lot?
Oh, moi, personnellement, non.
Et l'opposition?
Non. Parce qu'au moins, c'est le Mali qui gagne.
D'accord. Alors nous allons observer quelques secondes de pause avant la deuxième partie du débat.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le grand dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID.
Les réseaux sociaux, justement, Studio Tamani, sur la page Facebook, sur notre page Facebook, donc Studio Tamani, vérifiez les infos du jour. Toute l'actualité du Mali se retrouve donc quotidiennement sur notre page Facebook et également réagissez sur ce que nous produisons sur Twitter ou bien également en visitant notre site web www.studiotamani.org. Nous sommes donc à la deuxième partie du débat du Parlement. Le deuxième volet parle du rapport d'audit de la Cour suprême sur les opérations d'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Pour ce débat, nous avons comme invité Mohamed Ould Sidi Mohamed du RPM, élu à Gundam, et Adama Paul Damango de l'URD, élu à Bankass. Alors, juste avant d'entamer cette deuxième partie, le Premier ministre Moussa Mara vient de boucler un voyage en Europe. Il a notamment participé au Forum économique sur l'Afrique organisé par le Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, en partenariat avec l'Union africaine. Moussa Mara a multiplié les contacts avec les discussions avec les différentes personnalités à Paris. Alors, le Premier ministre a notamment demandé plus d'implication de la France, mais tout ceci, toutes les actions des partenaires étaient conditionnées à ce quitus du FMI. Alors pensez-vous que tous les malentendus, comme l'a dit le Premier ministre, sont dissipés, Mohamed Ould Sidi du RPM?
Bon, moi je pense que il y a eu beaucoup de presse autour des achats militaires et sur l'avion présidentiel. Mais si on regarde vraiment en temps, moi j'estime que un chef d'État, si nous regardons tous les chefs d'État qui nous entourent ici, ils ont tous des avions de commandement présidentiel. Donc je ne vois pas pourquoi on diabolise le fait que notre président du Mali puisse acquérir un avion de commandement. Ce n'est pas l'avion...
Les arguments, c'était que, est-ce que cet achat était opportun?
Bon, moi, je pense que pour un pays qui se respecte, qui a beaucoup d'égards pour son président, cet achat est opportun, à mon avis.
Avec tous les problèmes qu'il y a
Avec tous les problèmes qu'il y a, dans tous les cas, l'honneur du pays et la dignité dépassent le Malien dans sa culture. Il respecte le chef.
Alors, nous rapportons ce que l'opposition et une partie de la société grogne en silence. Alors, l'opposition a longtemps réclamé qu'il y ait un éclaircissement sur cet achat d'avion. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition a tous les arguments, on a fourni tous les arguments nécessaires à l'opposition sur la clarté des conditions d'achat de cet avion? Adama Paul Damango.
Merci.
Du RD.
Merci. Effectivement, bon, moi j'ai pris fonction à l'Assemblée nationale en janvier. Mmh. Et depuis que je suis arrivé, il y avait déjà les bruits qui couraient par rapport à cet achat d'avion présidentiel. Je vous avoue, j'étais maire de ma commune pendant 10 ans. Ma première priorité quand je suis arrivé à la mairie, c'était de m'acheter une moto de service. Et en janvier, j'étais avec mes camarades, je disais, chez un camarade à l'époque, je lui ai dit que, effectivement, IBK a raison de payer cet avion-là.
Vous êtes de l'URD?
Je suis de l'URD. Et je l'ai dit en son temps. Hein.
Est-ce que vos propos ne sont pas en contradiction avec ceux de votre président, Soumaïla Cissé?
Ça n'engage que lui. Et moi, ma voix n'engage que moi, ma personne, Adama Paul. Moi, j'ai dit que un président, pour sa souveraineté et pour la souveraineté de la nation, il doit payer un avion. Et regardez, au mois de mai, quand il y a eu l'attaque, le président Sidi, le président de Mauritanie, a pris son avion sur le champ et est venu à Bamako. Et de Bamako, il est allé
à Kidal
pour négocier et revenir faire la ceinture et aller en Mauritanie.
Mais en Mauritanie, tout va bien.
Pardon, c'est pas un alibi. Vraiment, je suis d'accord que l'avion soit payé par.
Et les conditions d'achat de cet avion alors?
Voilà, c'est là le problème. Effectivement, dans les conditions, ils n'ont pas respecté les règles de l'art. Dans les passations de service, il y a au moins les 4 phases qui doivent être respectées.
Passation de marché.
De marché, pardon. Donc, c'est ces phases qui ont été occultées. C'est de ça que moi j'ai décrit en tant qu'ancien maire. Donc, l'État même a produit des documents qu'on appelle manuel de procédure. Donc, ils ont violé ces documents. C'est ça que je déplore en eux. Sinon, alors, je suis pas contre l'achat.
Alors, quel est l'avis du RPM par rapport aux conditions d'achat?
Bon, nous pensons qu'un gouvernement souverain, vraiment, moi, je ne maîtrise pas beaucoup le code de procédure de passation des marchés, mais j'estime qu'à la date d'aujourd'hui, quand même, suffisamment d'éclaircissements ont été donnés pour convaincre les gens, les FMI eux-mêmes, qui sont venus, ils ont fait la table ronde pendant 15 jours avec madame le ministre des Finances. Elle s'est suffisamment donné des arguments et le FMI a promis que les accords vont reprendre en décembre. Donc nous sommes maintenant, l'Assemblée nationale est en session budgétaire. Je pense que toutes les écritures qui n'avaient pas suivi la procédure, vont revenir, elles vont être légalisées dans la session actuelle par le budget rectificatif de 2014 et le budget de 2015.
Alors, nous passons donc à la deuxième partie donc, de ce volet consacré aux passations de marchés également au ministère de la Défense, de certains marchés qui ont été annulés. Est-ce que vous pensez que là aussi, il y a eu faille de la part des autorités Adama Paul Damango de l'URD?
Oui, quand j'ai vraiment lu certaines presses et entendu aussi les familles dans son rapport, donc je dis vraiment qu'il y a eu effectivement faille. Parce que effectivement, pour des marchés, c'est vrai, il y a la souveraineté de l'État. Il y a certains marchés qui peuvent se passer sans vraiment être créés sur le toit. Mais passer des marchés de gré en gré, ce n'est pas bon. Et moi, je remets souhaité que l'armée fasse l'achat d'elle-même, que de confier à des civils. Ça, c'est mon point de vue. Le Mali a un gouvernement. Dans le gouvernement, il y a un ministère dédié à l'armée. Donc, le Mali peut confier à l'armée, tout en ayant confiance en cette armée. On leur confie le marché. On leur demande de faire les achats et puis amener.
C'est quand même pas un novice qui était à la tête de ce département. Je rappelle que c'est à l'époque, c'était le ministre Boubey Maïga qui était aux affaires, un ancien ministre de la Défense qui revient aux affaires et ces faits-là se produisent en sa présence. Est-ce que vous comprenez cet état?
Bon, là, ce que j'ai déploré en cette situation, c'est la surfacturation que je déplore. Je regrette. Si nous avons passé le marché à un militaire, je ne vois pas de plus noble. C'est comme si je suis pharmacien, j'ouvre une pharmacie. Mais on ne va pas demander à un enseignant, fut-il enseignant, ou bien fut-il ingénieur,
commerçant,
d'ouvrir une pharmacie. Dans cet ordre d'idée, je serais d'accord avec le gouvernement qu'on puisse confier l'achat de ces matériels de l'armée-là à des militaires. Ils connaissent mieux les types de matériel qui leur est nécessaire, adapté par rapport à telle zone ou tel combat. En ce sens-là, ils peuvent vraiment faire les achats. Mais c'est la surfacturation que vraiment je déplore.
Alors, qu'est-ce que la majorité présidentielle a à dire par rapport à cette situation, Mohamed Ould de Sidi Mohamed?
Nous pensons que l'armée est un domaine régalien où il faut vraiment que le secret d'État, parce que même le chef suprême des armées, souvent, n'est pas au courant de certaines actions de l'armée. Donc, dans ce cas, le marché des armes ne pouvait pas passer par la procédure normale que tout le monde souhaite. Maintenant, le ministre de la Défense actuel a vu tous les marchés, et je crois que sur conseil de ses conseillers et tout ce qui l'entoure, tous les marchés qu'il a vus qui n'ont pas passé par la procédure normale, il nous est revenu qu'il les a tous abrogés. Moi, je n'ai pas vu d'abrogation. Je lis seulement comme vous tous à la presse. Donc, je pense que le tir est un peu rectifié et que vraiment, il faut que les gens sachent que les trucs militaires, c'est vraiment ultra secret. Parce que vous ne pouvez pas combattre des gens et qu'ils soient au courant du type d'armement que vous avez. En contrepartie, ils vont chercher tout ce qu'ils peuvent qui peut vous nuire et qui peut mettre en état de nuire votre armement.
Ce qui a été divulgué et qui a du mal à passer, c'est les surfacturations.
Bon, je ne sais, les surfacturations ne sont pas une bonne chose en soi, si elles ont existé.
Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau de responsabilité, des choses comme ça doivent se passer?
Normalement, des choses comme ça, vraiment, nous, le RPM, en montant au pouvoir, son président Ezongo, dit qu'il faut la bonne gouvernance. Donc, dans une bonne gouvernance, ça, c'est des choses qui ne doivent pas se passer.
Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez qu'il puisse y avoir sanctions suite à ces malversations?
Bon, ça, je ne sais pas, il revient à la justice, aux autorités de prendre, de juger de l'opportunité. Moi, en tant que député, je déplore seulement la surfacturation, comme le honorable de l'IRD l'a dit. Et maintenant, je sais quand même que le président prône la bonne gouvernance et la surfacturation est un délit vis-à-vis de la bonne gouvernance.
Je rappelle que vous êtes Mohamed Ould Sidi Mohamed de l'URD, élu à Gundam. Alors,
pardon.
Élu à Gundam et vous êtes du RPM. Alors, Adama Paul Damango, vous êtes de l'URD et vous êtes élu à Bankass. Pensez-vous qu'il puisse y avoir sanctions suite à ces malversations?
Bien, sanctions, je dirais que là, ça relève vraiment du pouvoir judiciaire. Mais qu'à cela ne tienne, en tout cas, au cours de l'année 2014, nous avons eu à voter une loi par rapport à l'enrichissement illicite. Cette loi donne le plein pouvoir au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, de prendre toutes ses responsabilités par rapport à ça. Il a prôné et on lui a donné ce quitus en votant cette loi. Donc, il ne doit pas vraiment admettre, sous son mandat, de tels actes. Il doit vraiment prendre ses responsabilités pour agir. Comme notre président Soumana Cissé l'a dit.
Même si des hauts responsables sont concernés.
Peu importe la personne, nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Fut-il un proche à lui, il doit les écarter ou les remettre à la justice. C'est l'idéal. Pour son image. Parce qu'il a dit le Mali d'abord. Le Mali, ce n'est pas sa personne. Le Mali, ce n'est pas ses camarades. Le Mali, c'est un État.
Alors, Mohamed Ould Sidi Mohamed, vous êtes du RPM, élu à Gundam. Est-ce que vous ne pensez pas que cette situation puisse hériter un peu les partenaires pour plus de méfiance vis-à-vis du Mali? Est-ce que, quelque part, cette confiance placée en ce pays n'est pas écorchée?
Bon, je ne pense pas. Peut-être que au début... Les partenaires étaient réticents parce qu'ils ne savent. Mais moi, je pense que vraiment leur séjour dernier leur a permis de comprendre. Ils ont eux-mêmes donné une conférence de presse pour dire qu'ils ont retrouvé tout ce qui a été fait et qu'ils ont vraiment compris. Je pense que c'est ce qui a gelé un peu la coopération. Mais nous souhaitons et nous faisons tous des bénédictions, opposition, groupe parlementaire, tous les Maliens, que la reprise avec les partenaires reprenne, parce que les pays en voie de développement, ne peuvent, malgré leur bonne volonté, ne peuvent pas se passer des partenaires au développement.
Alors, cette crédibilité du Mali est-elle compromise aujourd'hui, Adama Paul Damango de l'URD?
Bon, c'est à l'opinion internationale de juger. Parce qu'à travers les FMI, ils ont fait leur mission, ils ont constaté. Maintenant, eux d'apprécier. Vraiment, je ne peux que vraiment dire donc apprécier.
Alors, nous allons observer 2 secondes de pause avant la troisième et dernière partie du débat.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Le grand dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID.
Studio Tamani, vous écoutez les programmes du studio à travers la vingtaine de stations partenaires du studio réparties dans tout le pays. Et nous avons également le concours également de nos correspondants, une vingtaine de correspondants dans le pays qui rassemblent les informations pour vous. Alors ce débat est aujourd'hui le 8e débat du Parlement, le 8e débat du Parlement qui a dans ses axes, nous sommes dans le dernier, l'appel du Mali au Conseil de sécurité pour l'aider à faire face aux djihadistes dans le Nord. Pour en parler, nous avons Mohamed Ould Sidi Mohamed du RPM, élu à Gundam, et Adama Paul Damango de l'URD, élu à Bankass. Alors, cet appel, est-ce que finalement, aujourd'hui, on peut affirmer qu'il y a divergence de vue entre la communauté internationale et les autorités maliennes, vu que cette demande de déploiement d'une force sur place dans le Nord tarde à venir, Mohamed Ould Sidi?
Bon, moi je pense que...
Du RPM.
Je pense que maintenant, avec les nombreuses attaques maintenant que les djihadistes sont en train de mener contre la MINUSMA, contre Serval, contre l'ONU, normalement le président a fait un appel à l'ONU. L'ONU doit avoir vraiment une réaction musclée. Parce que ce que nous a été remarqué, c'est que les gens de la MINUSMA qui sont dans le Nord, ils n'ont pas mandat de tirer. Donc à partir du moment où ils n'ont même pas mandat de tirer, ça, ça doit changer à mon avis, parce qu'on ne peut pas venir vous agresser jusque dans votre site et que vous n'avez pas la, le droit de réagir.
De répliquer.
De répliquer. Je pense que le président est parti à l'ONU et je pense qu'il a été suffisamment écouté. Et nous espérons que sous peu, vraiment, le mandat onusien va changer pour qu'en collaboration avec les forces armées maliennes, ils puissent maîtriser maintenant vraiment l'action des djihadistes.
Alors, à titre de rappel, lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Mali, les représentants des pays du Conseil sont restés divisés sur la question du déploiement d'une force d'intervention au nord. Selon le général Kazoura de la MINUSMA, le patron des forces onusiennes au Mali, il avertit si le rôle de la MINUSMA doit évoluer sur du maintien de la paix à la lutte contre le terrorisme, il est urgent de le planifier. Alors, à l'opposition, quel est votre avis sur ce dysfonctionnement et ces divergences de vues entre les différents membres du Conseil de sécurité des Nations Unies? Madame Paul Damango,
de l'IRB. Donc, sans vraiment entrer dans le secret des dieux, donc ça sous-entend que même au sein des Nations Unies, il y a division. Certains veulent bien nous aider, d'autres, par contre, veulent profiter de ce cafouillage pour aussi avoir la disgrâce de ces groupes armés.
Alors, pour bien clarifier ce qui a été dit, c'est que certains membres estiment que le Mali aujourd'hui doit prendre en charge sa propre sécurité et d'autres pensent que le soutien international est toujours nécessaire au pays.
Bon, c'est vrai, aujourd'hui, on a une armée très fragilisée. Une armée très fragilisée avec vraiment la psychose qu'ils ont vécue. Alors, pour vraiment que le Mali puisse vraiment faire face à cette rébellion, ce n'est pas facile. On n'a vraiment pas les moyens.
Alors, ce n'est plus la rébellion qui est en cause aujourd'hui, c'est le
djihadisme.
Les djihadistes qui
bien
sont
sûr.
En cause.
Bien sûr, moi, quand je parle du groupe armé, je fais allusion à ces djihadistes, parce que pour moi, le Mali ne va pas en guerre contre ses propres frères, les Mélélans. Mais aujourd'hui, c'est pour lutter contre le djihadisme. Ces Mélélans, c'est quoi? C'est des rebelles. Ces Mélélans-là, ils sont tous djihadistes. Parce que les djihadistes agissent sous couvert, en dessous de ce mouvement armé-là. Parce qu'ils profitent de la présence de ces rebelles, les Mélélans, pour venir s'implanter. Pour cela, je demanderais vraiment aux Nations Unies vraiment de changer leur mandat au niveau du Mali pour faire face à ces djihadistes, pour tirer, contrairement à leur première mission.
Alors, en attendant que le Conseil de sécurité et les Nations Unies, de façon générale, puissent trouver une solution à ce mandat de la MINUSMA, il y a la force Barkhane qui évolue sur le terrain, force Barkhane qui a remplacé l'opération Serval, même si aujourd'hui, ces deux opérations n'ont pas le même mandat. Aujourd'hui, l'opération Barkhane couvre tout le Sahel. Est-ce que vous pensez que la France a un rôle prépondérant à jouer dans justement la façon de maîtriser la sécurité dans le nord du Mali, Mohamed Ould Sidi, de l'RPM?
Moi, je pense que la France, c'est elle qui nous a aidés le 11 janvier en chassant les djihadistes. Et elle ne doit pas, ce n'est pas le moment pour, à mon avis, pour elle d'abandonner, de nous abandonner sur chemin. Elle doit, le rôle de la France est prépondérant dans la sécurité au nord. C'est vraiment mon avis et je pense que l'opération Barkhane, l'autre jour, il a été rapporté qu'elle a fait une très bonne opération.
En neutralisant
un convoi
d'armes
qui venait au Mali. Donc ça veut dire que l'opération Barkhane est en train de surveiller. Maintenant, c'est stratégique pour eux de tout le nord du Sahara. Parce que dans le nord du Sahara, il y a le Tchad, il y a la Libye, il y a le Mali, il y a le Niger et il y a la Mauritanie. Et l'Algérie, donc. Et tout ceci ne sont pas à l'abri des attaques des djihadistes. Vous avez suivi ce qui a été fait en Algérie l'autre jour. Donc tout ce qui nous arrive peut arriver aussi à nos voisins. Et la France a un rôle prépondérant pour moi à jouer dans la sécurité du Nord.
Alors, pensez-vous qu'aujourd'hui, certaines rencontres entre la force Barkhane et certains groupes armés du Nord se tiennent sans l'armée, l'implication de l'armée malienne? Pensez-vous que cela puisse donner un bon résultat?
Bon, je ne sais pas. Moi, je pense que je ne connais pas l'itinéraire de la force Barkhane, mais l'objectif quand même de sa création, c'est de sécuriser toute la bande sahélo-saharienne. Et elle est basée au Niger, parce que c'est un peu le point centrique par rapport au pays du Chad. Et donc, je pense que même si la rencontre ne doit pas influencer, à mon avis, dans tous les cas, tout ça, c'est des trucs passagers, à mon avis. S'il y a les accords d'Alger, tout doit rentrer dans l'ordre en principe.
Alors, à l'opposition, ces rencontres qui se tiennent sans l'armée malienne, un avis, Adama Paul Damango?
Oui, merci bien. Par rapport aux rencontres que l'opération Serval, aujourd'hui Barkhane, ces rencontres qui se tiennent sans l'armée malienne ou sans l'administration malienne, je déplore également. Parce qu'une fois lors d'une causerie au niveau de l'Assemblée, en tout cas, un élu de la région nous a fait savoir que l'opération Barkhane va rencontrer les rebelles jusque dans leur fief sans l'autorité malienne. Ce n'est pas encouragé. Parce que vraiment, nous ne savons pas ce qu'ils vont négocier avec eux. Il n'y a pas de témoin de l'État. On ne sait pas s'ils vont les encourager ou bien s'ils vont négocier pour qu'ils puissent venir à des meilleurs sentiments pour être toujours maliens. Vraiment, c'est trop flou. Il faudrait que vraiment le président Barkhane puisse changer de fusil d'épaule pour être avec nous, pour que l'union sacrée du Mali soit respectée. C'est mon avis.
Alors, qu'est-ce que le Mali doit faire aujourd'hui pour que sa voix soit plus entendue et plus respectée dans certaines les réunions, comme ce fut le cas avec le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ould Sidi? Une demande qui n'a jusque-là pas eu de réponse favorable.
Bon, je pense que le ministre des Affaires étrangères a fait beaucoup de contacts suite aux visites du président de la République à l'ONU, en Amérique, en Chine, en Russie. Bon, vous savez, les réactions des États sont très lentes. Moi, je pense qu'il a été bien écouté. Peut-être qu'il y a une lenteur seulement dans la prédisposition de ces États à répondre à l'appel du Mali. Sinon, aucun d'eux, à mon avis, n'a rejeté la demande faite par le ministre des Affaires étrangères.
Alors, Adama Paul Damango, vous êtes de l'URD. Que pensez-vous de cette lenteur dans cette demande du ministre des Affaires étrangères du Mali adressée aux Nations Unies?
Bon, vraiment, sur ce point, je n'ai pas d'objection. Comme je n'ai pas bien suivi son déplacement,
vraiment, je m'excuse. Pensez-vous que la voix du Mali puisse être, comme avant, entendue et respectée?
Pourquoi pas? Nous avons un Mali qui est vraiment en train de se faire valoir à travers les contacts que le ministre des Affaires étrangères est en train de nouer. Il a fait plusieurs contacts. Donc, sûrement, les pays ont souci de la paix parce que la zone, la bande sahélo-sahélienne, c'est une zone qui est très menaçante pour même l'Europe. Hein. Donc, ils ont aussi aujourd'hui intérêt à accepter le Mali et à venir appuyer le Mali pour que la paix reviennent.
Alors, en quoi est-ce que la sécurité du Sahel aujourd'hui peut menacer l'Occident, Mohamed Ould Sidi?
Ça menace l'Occident, c'est que la preuve est que les experts, les touristes et tout ce qui s'en suit, ils sont freinés dans leur vie quotidienne, parce que ces zones sont appelées zones à ligne rouge et ils ne viennent plus. Alors ça fait partie quand même d'une astreinte à leur liberté. Et souvent, quand il y a des otages, c'est à des prix de milliards qu'on reprend les otages. Donc c'est dans ça, à peu près, qu'ils sont un peu menacés. Ensuite, il n'est pas exclu que si vous prenez le truc du 11 septembre, personne n'est à l'abri parce que des gens peuvent s'infiltrer et aller faire des dégâts en Europe. Donc si maintenant on stoppe vraiment le banditisme résiduel dans la bande sahélo-saharienne, l'Europe en gagne, à mon avis.
Alors, nous avons tenu un débat hier sur la situation du criminel dans le nord du Mali. C'est le petit banditisme qui a aujourd'hui laissé la place à une véritable industrie criminelle avec trafic de drogue, d'armes et les prises d'otages aujourd'hui. Certains experts estiment que le verre est déjà dans le fruit. Est-ce que vous pensez que les forces, les membres du Conseil de sécurité ne sont pas aujourd'hui réticents à l'idée d'envoyer des troupes dans cette zone, notamment pour le Damango?
Oui, je l'ai dit. J'ai dit c'est parce que certains pays sont contre notre pays. Les gens qui sont contre notre pays ne voudraient pas que notre pays se développe, qu'il y ait la paix dans notre pays. Mais par contre, les gens, les pays qui sont nos amis, voudraient bien nous soutenir dans notre action.
Est-ce que ces pays-là ne pensent pas également que le chantier est trop vaste pour venir en découdre avec les terroristes dans le Nord?
Pour dire que le chantier est trop vaste, c'est méconnaître déjà les conséquences qui pourraient en découler. Quand ces djihadistes vont s'installer dans cette bande sahélo-sahélienne, ils pourront alors contrôler tout le monde entier. On le dit toujours que le site de Tessalit est un site stratégique, géopolitique et géomilitaire. Pour la surveillance du monde entier. Alors si ces djihadistes gagnent une liberté totale, ils vont faire leur base armée là-bas, ils pourront vraiment contrôler tout le monde entier. L'Europe va souffrir, l'Amérique va souffrir. Donc c'est en cela que les pays partenaires doivent nous accompagner. Que l'ONU doit nous accompagner.
Alors, une chose est aujourd'hui de récupérer les zones du Nord, mais une autre chose est de les sécuriser. L'armée malienne n'est toujours pas à Kidal. Pensez-vous qu'une fois sur place, l'armée malienne puisse maintenir la sécurité avec les trafics et tout ce qui se passe dans le cadre des criminels dans le Nord? Pensez-vous que l'armée malienne, même si on lui remettait aujourd'hui cette zone, puisse maintenir la sécurité? Et sinon, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui à l'armée malienne pour qu'elle puisse assurer la sécurité de ces zones au Mohamed Ould Sidi du RPM?
Moi, je pense que l'armée malienne est en restructuration. Et une fois, il y a des hommes valables dans l'armée malienne et courageux qui peuvent combattre. Si moi, à mon avis, si tous les moyens aériens et terrestres sont mis à la disposition de l'armée malienne et qu'elle se réinstalle, elle peut, à mon avis, contrôler la sécurité dans cette zone. Maintenant, si elle n'a pas de moyens, il sera difficile pour elle de faire l'opération. Et je pense que le président, dans sa politique, il est en train de tout faire pour équiper l'armée, pour la restructurer, afin qu'elle puisse répondre maintenant à sa mission classique, celle de la défense des territoires maliens.
Alors, une chose aujourd'hui est de trouver un accord, mais de quelle façon aujourd'hui on pourra trouver un accord avec les groupes armés? Est-ce que l'opinion est préparée à l'idée que les groupes armés puissent aujourd'hui regagner l'armée malienne? Une armée multicolore, est-ce possible encore?
C'est bien possible,
mais pour le Damango du Lir.
Là, il faudrait vraiment faire une gestion au cas par cas, parce que c'est sûr, c'est difficile. Quand, à un moment donné, un frère qui a pris une arme contre toi, il y aura toujours un sentiment de méfiance. Mais si vraiment il y a cette confiance totale qui naît, pourquoi pas?
C'est votre avis, Mohamed Ould Sidi?
Moi, je pense que quand on cherche la paix, la paix n'a pas de prix. Si les gens font, le Malien, il est très tolérant. Si les gens s'excusent et que les déserteurs de l'armée malienne
reviennent
à de meilleurs sentiments, ils étaient là et je pense que l'excuse sera permise. Et comme il a dit, il y a peut-être qu'il faut étudier, il y a quand même certains cas, il y en a qui ont déserté même, ils n'ont pas tiré aucun coup contre eux, ils sont dans les camps des réfugiés parce qu'ils ont peur eux-mêmes de venir. Donc ça c'est des cas, moi je pense que sur lesquels ils n'ont rien à se reprocher sur la conscience, que des cas qu'on peut étudier au niveau comment les réinsérer. Et peut-être ça va. Mais on ne peut pas, moi je pense que si on cherche la paix, vous ne pouvez pas exclure Ces gens-là, si vous inscrivez certaines personnes, ça, vous n'avez pas résolu le problème. Mais
le problème reste entier.
Voilà.
Merci beaucoup. Cette émission est rendue possible par le soutien du peuple américain à travers l'Agence américaine pour le développement international. Le contenu de cette émission est de la seule responsabilité du studio Tamani et ne reflète pas nécessairement les points de vue de l'USAID ou du gouvernement des États-Unis. Ce débat donc du Parlement 8e du genre prend fin à Tamani. Le débat portait sur trois axes et nous avons eu comme invité Mohamed Ouldossi dit Mohamed du RPM, Adama Paul Damango de l'URD, je suis Famoussa Sidibé, Sekou Gadjigo a réalisé cette émission, Petting Diarra et Salim Djouara étaient à la technique. À demain pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makaran.
Le grand dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID.
Chen Nibiru.
Halo Dmouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.